France Musique. Sous les doigts d'Horowitz. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, 7e épisode de Sous les doigts d'Horowitz. Je vais vous raconter les tristes années, celles de 1953 à 1965. Les années de retraite, je dirais de grande retraite de Vladimir Horowitz. Mais rassurez-vous, nous finirons cet épisode par un concert. Et quel concert après 12 ans de silence ? Samedi dernier, nous avons laissé Volodya en pleine détresse lors d'un concert qu'il n'a pas pu donner, tant l'angoisse l'a submergé. Cette fois, elle l'a dévoré de l'intérieur. Vanda, qu'il avait quitté en 1949, vient le chercher et le ramène chez eux avec un laconique « Il est tombé malade, alors je l'ai repris ». Vladimir raconte « Je suis allé à l'hôpital et ils ont tout regardé et dit que ça allait. Mais le médecin m'a prévenu. Il faut que vous preniez une année sabbatique parce que vos nerfs sont sur le point de craquer, ce que j'ai fait. » Loël Bénédict, l'ancien secrétaire de Vladimir, qui était encore proche du couple, vient voir le malade et nous donne une image réelle de son état. Quand je suis allée lui rendre visite, 94e rue, j'ai été accueillie par Vanda qui m'a dit qu'il était en haut et a fait cette remarque avec du dédain dans la voix. Il est lamentable. Je suis montée dans sa chambre et ce que j'ai vu, c'était un légume. Horowitz a lui aussi une image en tête pour décrire son état. Je me suis arrêtée comme on arrête une voiture dont on ne veut pas brûler le moteur. Je pensais que je ne rejouerais jamais. En fait, Vladimir en était venu à mépriser le public et disait qu'il avait l'impression d'être dans l'arène devant un public assoiffé de sang. Son jeu s'en ressentait. Le journaliste Harold Sichenberg parle d'une incandescence dangereuse. On avait presque le sentiment qu'il y avait en lui un démon maintenu sous un contrôle trop étroit et qui essayait de s'échapper. Et les journalistes? Eh bien, c'est simple, il ne peut plus les voir.
Floor 5, subway muggers, aggressive panhandlers and book critics. Floor 6, right-wing extremists, serial killers, lawyers who appear on television. Floor 7, the media. Sorry, that floor is all filled up.
En fait, Volodya ne sort plus de chez lui, refuse toute invitation, mange de la nourriture de bébé, dort plus de 12 heures par jour. Il ne bouge plus de sa chambre. Sa seule distraction consiste à regarder par la fenêtre. Pour Volodya, cette année sabbatique est plutôt délicieuse. De 53 à 54, je n'ai pas joué du tout. Eh bien, c'était merveilleux. Quand ce fut fini, je pensais en prendre une autre. Dans un deuxième temps, Vladimir déménage dans la grande pièce du premier étage et n'en sort pas non plus, mais entr'ouvre la porte. J'ai vu des amis jouer aux cartes, parler de philosophie, lu des livres et écouter de la musique de toutes sortes. Quant à se remettre au piano, non. Pas encore. Ils se sont asséchés, désertés de tout désir musical.
Mmh.
Alors dans le grand salon commence une vie de cloîtré et de chamaillerie infernale avec Wanda. Elle donne souvent l'impression d'être un pitbull prêt à dévorer son pauvre petit mari. Elle joue de ce personnage, mais non sans humour. Un journaliste décrit Volodia comme un homme mi-ange, mi-diable. Elle répond...
Non, il s'est marié à un ange. Et moi, un diable.
Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que si la nouvelle vie de Volodia le satisfait, celle de Wanda n'est pas des plus excitantes.
Pas si heureuse.
Mais vous êtes restée là?
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Ça a dû être 12 années difficiles pour vous?
Oui, parce que vous voyez, de temps en temps, il disait « je ne jouerai plus » et je disais « bien, très bien ». Et j'avais le cœur qui me tombait dans les talons. Mais je devais dire « bien, si tu veux ».
C'est pourtant Vladimir qui décide de se réinstaller avec Wanda dans leur hôtel particulier. Elle organise leur nouvelle vie en sacrifiant quelques-uns de ses plaisirs. Maintenant qu'il n'y a plus de concerts, il leur faut bien trouver des revenus. Ils vendent leur collection de tableaux. Vladimir va mieux. Pour commencer, il met en pratique le vieux et bon conseil de Rachmaninov. Il faut marcher pour faire marcher ses doigts.
Je marche tous les jours 1 mile ou 2, ça dépend du temps. Quand il fait trop chaud, j'y vais lentement. Tous les jours, je fais 40 blocs. Ça fait 2 miles tous les jours.
Nous pouvons tout à fait imaginer Volodia commencer ses promenades par sa nouvelle marotte. Il est devenu un dingue de la météo dont il prend le pouls par téléphone. Il doit ensuite passer la laisse à son caniche blanc du nom de Pipo avant de mettre le nez dehors.
The reason is the map is lousy with lows. Now yesterday there was one here and one here. They've converged and in effect the larger has swallowed the smaller. And here's the low at the moment. And this is the frontal setup as a result of the low.
En revanche, aller à Riverdale chez Toscanini reste toujours une épreuve. Le patriarche le harcèle. Mais quand vas-tu rejouer? Le ton doit varier. Une fois, il le sermonne, une autre, il est paternaliste, et la remontrance peut devenir un reproche, voire une de ses colères homériques. « The show must go on », dirait Chaplin. «
There's your cue, get on that stage. »«
It's my leg, I'm paralyzed. »
Get on that stage,
Jack Pfeiffer, le producteur de RCA, s'y prend autrement. Plutôt que de supplier Volodia de se remettre au piano, il lui propose de participer à l'édition de son concert du Jubilé à Carnegie Hall, qui devait être radiodiffusé en janvier 1954. Horowitz écoute les bandes et sa curiosité, son imagination se sont réveillées. Pfeiffer, des idées qui étaient restées en sommeil en lui pendant des années, surgissaient maintenant, venant raviver son intérêt. Vladimir Horowitz refuse de dire qu'il a quitté la musique dans cette période de retrait de la scène.
Oh non, c'est tout le contraire. J'ai découvert tellement de nouvelles œuvres. J'étais tout le temps dans la musique. Elle ne m'a jamais fait défaut. Par exemple, j'ai enregistré les 3 sonates de Clementi. Et ça, c'est un moment où je ne jouais plus en public. Vous savez, quand vous jouez en concert, vous avez 1 ou 2 programmes avec lesquels vous tournez. Et vous n'avez pas de place dans votre tête pour d'autres pièces. parce que vous devez les répéter tout le temps quand vous allez de ville en ville pour être prêt quand le moment de jouer est arrivé.
N'allons pas trop vite en besogne. Avant de se mettre à étudier Clementi, Vladimir est d'abord revenu à une de ses passions d'enfance.
Aussi, quand j'ai arrêté de jouer en public, je suis revenu vers mon enfance. En un sens, j'ai recommencé à zéro.
Vous rappelez-vous qu'enfant, il écoutait déjà beaucoup d'opéra et qu'un de ses plus grands souvenirs de jeunesse avait été d'avoir accompagné Nina Koshets en Russie. Eh bien, cette passion des voix ne l'a jamais quitté. Depuis des années, il a entamé une collection de disques impressionnante.
Comme vous le savez, j'aime penser le piano. Pour moi, le plus important, c'est que le piano est une continuité de son. C'est un instrument de chant et pas de percussion. Il faut que les accords, les notes, chantent comme du bel canto du 18e ou 19e siècle.
Vladimir est fou de Mattia Battistini, immense star de son époque, mort en 1928. Vladimir étudie son phrasé, sa maîtrise du souffle, sa palette vocale et son expressivité. C'est un modèle. Le chanteur l'obsède au point qu'il demande à ce que les vieux enregistrements soient remasterisés, ce qui, avec les moyens techniques de l'époque, s'avère impossible. Et voilà notre Volodia en quête de musiciens perdus, oubliés.
Quand je me suis remis au piano, j'ai commencé par jouer lentement. J'ai commencé à me guérir graduellement de tous les excès que j'avais pratiqués pendant 15-20 ans. Certains étaient nécessaires, d'autres intéressants, mais du coup j'ai négligé bien d'autres choses.
Vous êtes revenu vers une forme de classicisme ?
Non, pas complètement. Mais je me suis tourné vers toutes les autres musiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Clementi, par exemple.
Mais il n'est pas du tout évident de se passionner pour un musicien à ce point oublié comme Clementi. Et Volodia se fait aider par Vanda. Il explique. Jusque-là, l'éditeur américain, Schirmer, n'avait publié de lui qu'un seul recueil d'une vingtaine de sonates et pas les meilleures. Ma femme était allée en Italie. Là-bas, elle a trouvé une première édition de ses 64 sonates en 12 volumes. Et j'ai commencé à les jouer. Volodia se consacre non seulement à l'étude de l'œuvre, mais réfléchit à comment la défendre.
Vous savez, parfois vous avez de belles signatures et pas forcément des œuvres intéressantes. Et parfois vous n'avez pas de grandes signatures, mais de belles œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Clementi n'est pas une aussi belle signature que Mozart. Mais je pense que ses sonates sont plus intéressantes. Vous voyez? C'est la même époque, mais il était plus vieux. Il est né en 1752, Clementi. Et Mozart, lui, est né en 1756. Ils ont 4 ans de différence. Il n'avait certainement pas le génie de Mozart. Tout ce que Mozart a développé dans le concerto, dans l'opéra. Mais savez-vous que Clementi a composé 36 symphonies et il les a toutes brûlées? Il les a brûlées parce que Mozart lui avait dit qu'il n'avait pas de talent. Plus tard, il a emprunté l'une de ses sonates, qu'il a utilisée dans le début de la Flûte enchantée. Ça vient d'une sonate de Clementi. Il a voulu lui rendre hommage. Vous savez, je ne crois pas beaucoup à cette division entre la musique classique et romantique. Si vous réalisez que Beethoven est mort en 1827 et que la ballade en sol mineur de Clementi a été composée 5 ans après la mort de Beethoven, où est le classicisme, où est le romantisme? Beethoven l'aurait aimé. Tout ce qu'il a écrit montre qu'il y avait une affinité entre eux. Il n'avait pas le génie de Beethoven ou de Mozart, mais c'était un très grand compositeur. Si l'on considère que c'est le premier à avoir découvert le toucher du hammerclavier.
Dans un premier temps, Volodia le joue pour ses amis. Puis, au printemps 54, il commence à réfléchir à un disque Clementi. Il m'a fallu du courage pour me remettre à jouer. Et je ne savais même pas si j'en étais capable. Ça a été une surprise dans le monde musical, mais aussi une surprise pour moi-même. Et je me suis dit, bon, en faisant ça, le public saura que je ne suis pas mort. Ou que rien ne va de travers pour moi. Au moins, je n'avais pas à être dans le train. Je ferai ce disque et il voyagerait à ma place. Mon Dieu, si je peux gagner assez d'argent avec mes disques, pourquoi faudrait-il que je donne des concerts ? RCA est prêt à tout pour un disque.
Vous êtes prêt?
Je suis prêt pour tout. Pour tout.
Du coup, Volodia propose de se mettre au disque Clémenti avec ardeur, mais à une condition, que l'enregistrement ait lieu chez lui. Octobre 54, le salon de Vladimir Horowitz s'est transformé en studio d'enregistrement. Enregistré chez lui, amuse énormément Vladimir. Fini les déflagrations d'angoisse, bien à l'abri chez lui, il revient à des questions essentielles. Est-ce que ces passages sont assez forts? Est-ce que ça s'entendra si je mets la pédale en sourdine? Bref, voilà notre Volodia, à peu près comme dans le salon de musique de son enfance. Il joue, sa famille l'entoure et bien sûr l'applaudit. Voilà notre Vlado requinqué. Ainsi stimulé, Vladimir a envie de continuer l'expérience. Il veut offrir son répertoire russe aux Américains. Malheureusement, il renonce à un projet Metner, mais se décide pour un disque infiniment tendre, un reflet de sa jeunesse encore. Il s'agit de Scriabine, à qui, rappelez-vous, il avait été présenté enfant et qu'il a toujours joué, mais pas autant qu'il l'aurait souhaité, le public américain étant trop peu curieux des musiciens russes. Personne ne défend Scriabine à l'époque. C'est pendant ces années sabbatiques que j'ai commencé à ressentir cette musique et que je me suis mis à la rejouer. Scriabine est un mystique et même si sa musique est romantique, elle est difficile pour le grand public. Elle est pourtant super sensuelle, super romantique, super mystérieuse. Tout est excé en elle, tout va par-dessus bord. D'un point de vue spirituel et affectif, c'est certainement un pan de la littérature pianistique des plus complexes. Vladimir doit faire un choix dans le but de présenter le musicien au public. Je deviens fou devant ce qu'il faut choisir. Vladimir Horowitz veut à nouveau enregistrer chez lui, bien que ce répertoire ne se prête pas à un espace confiné. Il reprend tout en détail le nombre de fois nécessaire, passionnément. Et alors que RCA avait donné son accord pour un disque Scriabine bien peu commercial du bout des lèvres, cet enregistrement a un énorme succès. C'en est fini avec le système maison en 56. RCA continue à espérer un grand retour et propose à Vladimir un deuxième concerto de Rachmaninov avec Ormandy. Ils insistent et Vladimir refuse. Pourtant, ça le titille. Alors, il accepte tout de même de faire un disque Chopin, mais cette fois, pas chez lui. Il propose, autrement dit, il pose ses conditions, que cette fois Carnegie Hall soit transformé en studio. Il fait un premier essai en janvier 57. Et il est ému de se retrouver dans la salle où il a connu ses plus grands succès. Une petite envie de public commence à s'insinuer dans ses rêves. Au point qu'il révise encore une fois sa variation Carmen pour un hypothétique bis. Mais catastrophe! Quelques jours après, Toscanini meurt. Un immense hommage lui est rendu à la cathédrale Saint-Patrick à New York. Puis, les obsèques sont nationales à Milan. Tous les médias du monde y assistent. Et je repense à une promesse que je vous avais faite et pas encore tenue. Vous faire écouter un extrait du premier concerto de Tchaïkovski avec Toscanini et Vladimir Horowitz. Ils l'ont en fait enregistré deux fois. La première, en 1941, était si catastrophique que Vanda avait écrit à Rachmaninov de ne surtout pas l'écouter. C'est un train qui fuit, une interprétation d'un bout à l'autre rapide et sans aucun répit. Le disque était sorti pourtant. RCA se frottant les mains d'un tel duo. Mais du coup, Toscanini et Vladimir ont refait un autre enregistrement bien meilleur en 1943. Le 30 juin 57, Sonia, la fille de Vladimir et de Vanda, qui vivait chez sa tante Wally à Milan, a un grave accident de scooter. Elle survit miraculeusement mais garde des séquelles. Vanda se précipite à son chevet, Vladimir, dans la plus grande indifférence, reste à New York. Et nous verrons les tragiques conséquences de cet événement.
Another jarring right hand that time, folks. Another one. Sonny Robbo passes, has him hurt.
En revanche, il cesse toute activité musicale et renonce au disque en projet. Il passe son temps devant la télévision et se trouve une nouvelle passion, la boxe. Alors pendant deux ans, RCA réédite ou publie de vieux enregistrements de concerts pour garder une actualité sur Vladimir Horowitz. Il reste tout de même une activité à Vladimir Horowitz, l'enseignement, car il a eu un premier élève dès 1944. En février de cette année-là, il est à Pittsburgh pour un récital lorsqu'une tempête s'abat sur la ville et le voilà coincé jusqu'au lendemain. Plutôt que de rester à l'hôtel, il va écouter un concert d'étudiants, un jeune chef de 15 ans, Lorraine Mazel, et un tout jeune soliste, Byron Jennings. Au programme, le deuxième de Rachmaninov. À la fin du concert, Vladimir va dans la loge de Byron, complètement sonné de se retrouver devant Vladimir Horowitz. Il reste bouche bée lorsqu'il entend « Vous me rappelez ce que j'étais à votre âge, quand je portais en moi une sorte d'énergie moqueuse, quelque chose d'électrique. Quand vous retournerez à New York, vous m'appellerez. Je tiens beaucoup à vous parler. J'aimerais travailler avec vous. »
Thank you.
Byron doit faire le tri dans les conseils de Vladimir. Horowitz jouait avec un poignet très bas et pas mal de tension au niveau du bras. Il s'asseyait extrêmement bas sur sa banquette et tenait ses doigts en extension presque à plat. Être assis tellement bas convenait à son buste et il essaya de me montrer comment jouer de cette façon. Mais pour moi, ça ne marchait pas. Une leçon doit durer 2 heures et l'étudiant doit rentrer chez lui. Seulement, cela ne s'est pas passé comme ça. Byron Jennings. À vrai dire, le problème était que je ne faisais pas que travailler avec Vladimir. Je faisais partie de la famille. J'allais en vacances avec les Horowitz pendant l'été et quelquefois même, je restais dormir les week-ends. Chaque soir, il jouait pour moi une foule de choses. C'était extraordinaire comme expérience d'écouter tout ça. Mais en étant aussi jeune que moi à cette époque, et aussi sensible que je l'étais, l'entendre jouer autant m'a forcément imprégné. Son influence était inévitable. Il me disait « ne sois pas un Horowitz numéro 2, sois un premier Jennings », mais c'était impossible. Et l'élève est bien d'accord avec son maître en 66.
C'était pour moi... naturellement, une grande expérience étudiée avec lui. Je crois que les choses, les, how do you say, the good things,
oui.
Took time afterwards to
get. Ce qu'il vous a appris, c'est dégagé plus tard.
Plus tard, oui, parce que chaque grand artiste a son personnalité forte. Horowitz a une personnalité très forte.
Mm-hmm.
Et quand c'est difficile. D'être
soi-même.
Soi-même quand c'est presque impossible.
Naturellement.
Et cette façon qu'a le couple Horowitz de souffler le chaud et le froid déstabilise complètement le jeune homme. Byron Jennings. Horowitz avait un ego si énorme qu'il ne vous laissait jamais oublier un seul instant le privilège que c'était de pouvoir travailler avec lui. Il lui arrivait d'être assez puéril et parfois brutal et même jaloux de mes succès. Après 53, à partir du moment où Vladimir ne joue plus, il a du temps et accepte d'autres élèves, pour le meilleur et pour le pire. Ivan Davis nous donne un aperçu de sa relation avec le maestro. Il habitait à Philadelphie. Je devais l'appeler le samedi avant une leçon à 21h précise pour confirmer notre rendez-vous du dimanche à 17h. Quand je l'appelais à 9h du soir, il décrochait le téléphone dès la première sonnerie. Mais si je l'appelais à 9h15, il ne voulait pas me parler et je devais alors me passer de leçon pour toute une semaine. Et alors même que la leçon était confirmée, que j'avais conduit depuis Philadelphie, en arrivant, très souvent, son maître d'hôtel me disait qu'il ne se sentait pas bien et que je veuille bien le rappeler la semaine suivante. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit de me téléphoner pour m'épargner de faire le voyage jusqu'à New York.
Emmanuel Franc, sous les doigts d'Horowitz, France Musique.
L'expérience a été pour Gary Graffman plutôt enrichissante, mais il faut préciser qu'il avait déjà commencé une carrière et était moins influençable. En écoutant les élèves de Vladimir, je me dis qu'il nous dévoile plus de secrets sur le pianiste qu'il n'en a jamais révélé lui-même. Ronald Turini a sans doute été l'élève préféré de Vladimir, de 1958 à 63. On le retrouve ici avec Joseph Dzighetti et Ida Haendel. Ronald Turini. Vladimir était un démonstrateur né de ce qu'il enseignait. Son plus grand don, c'était son imagination. Pendant qu'il jouait, il me laissait sentir son bras. Je ressentais bien la tension énorme qui s'emparait du bras, mais elle se relâchait aussitôt après que chaque note eût été jouée. Quand il jouait fort, ça venait jusqu'au bout de son dos et c'était comme une explosion. Il avait aussi l'habitude de rester derrière moi et de sentir mon dos quand je devais plaquer un accord fort. Il me disait « Vous n'avez pas assez de force là ». Alors, il s'agrippait à mes épaules, puis à mon dos. Oui, c'est mieux, la force, la puissance. Tout ça vient des jambes, de l'estomac et du poids du corps aussi. Malheureusement, Turini ne fera pas une grande carrière. Vladimir l'a aidé autant qu'il l'a pu, le confiant même à son agent. Vladimir Horowitz s'intéressera à Vladimir Ashkenazy, André Watts, Murray Peraya et Jean-Philippe Collard. Mais il les a seulement entendus et ne s'est jamais considéré comme leur professeur. L'absence d'apparition de Vladimir Horowitz sur scène et la rareté de ses disques se révèle un excellent plan marketing. Ses enregistrements sont attendus comme des pépites. En mai 59, Vanda et RCA arrivent à convaincre Vladimir de faire un essai à Carnegie Hall puisqu'il ne souhaite plus enregistrer chez lui. Un disque qui devrait atteindre les sommets du box-office puisqu'il s'agit des deux sonates de Beethoven, la sonate en ré majeur numéro 3 et la 23, la Passionata. Autre argument de vente, ce sera son premier disque en stéréo. Vladimir Horowitz se faufile en douce à Carnegie Hall et enregistre donc dans la salle vide. Du coup, le piano a un son très dur, qu'il n'aime pas, quand bien même, quelle version non ? Son trop dur à Carnegie Hall, pas d'ampleur chez lui, Vladimir ne veut plus enregistrer nulle part. RCA en rage. Pendant tout ce temps, le pianiste sous contrat est payé à l'année pour ne rien faire.
Funny. Did you hear that?
Et le bruit que rien ne va plus entre RCA et Horowitz vient aux oreilles de Columbia. Il n'y a à l'époque que Columbia et EMI qui puissent rivaliser avec RCA. Columbia, c'est Igor Stravinsky, Bruno Walter, Leonard Bernstein, Miles Davis et Barbara Streisand.
That's me, I just keep them. stitches doubled in half.
Schuyler Chapin est le directeur de production de Columbia. Il appelle Vladimir en se disant qu'il n'a rien à perdre. Évidemment, Vladimir fait le malin et laisse sa femme prendre rendez-vous sans avoir l'air de le souhaiter. De même, le jour du rendez-vous, c'est Vanda qui prend la parole et Vladimir ne fait qu'opiner du bonnet. Chapin. Vanda avait des faits et des chiffres de RCA, une maîtrise digne d'un expert comptable dans un établissement bancaire. Rien ne semblait avoir échappé à ses yeux perçants. L'hérédité de Toscanini était bien là pour dominer la situation. Chapin a un argument de choc. Columbia veut développer le marché des jeunes auditeurs. Alors que Vladimir pleure de ne plus être reconnu dans la rue, il entend bien quel avantage et publicité il aurait à participer à cette aventure. Et puis, ils ont les moyens techniques de câliner la star.
When I changed the company, then it happens that they do have a studio which is not bad.
J'ai changé de maison de disques. Ils avaient un studio, c'était une vieille église, avec une acoustique sèche, avec un plafond très haut. C'est un très beau studio. C'est bien de jouer là. Et j'y ai tout joué. J'y allais et j'enregistrais. J'y allais trois fois plus qu'ailleurs. Je n'ai pas accepté que ce soit publié parce que je jouais comme ça. Mais j'ai recommencé à jouer parce que j'avais perdu la musique un peu, en ne jouant que pour moi-même ou pour des amis. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'ai recommencé à enregistrer de plus en plus de musique, là.
Chapin, qui avait été l'assistant de Heifetz pendant des années, s'est déjà frotté aux caprices d'un artiste. Il sait y faire avec Vladimir Horowitz. Vint enfin le soir tant attendu où les Horowitz se déclarèrent d'accord pour venir chez CBS. Et quand Horowitz se tourna vers moi en me demandant assez simplement « Est-ce que vous vous occuperez bien de moi ?» Le « oui » que je lui répondis calmement partait de mon cœur. Le contrat de 61 stipule que Vladimir s'engage à faire 6 enregistrements à raison de 2 par an. Il a le choix des œuvres. Il peut compter sur l'entier soutien du service publicité de CBS. Il n'est pas mensualisé, mais perçoit une spectaculaire commission au moment de l'enregistrement. Cette dernière clause a un effet de coup de fouet pour Vladimir. Il n'a plus le choix. N'ayant pas de concert, il lui faut se mettre au travail d'urgence. Vladimir se régale d'autant plus au fabuleux studio à New York qu'il est bien entouré. Le responsable des enregistrements, immense technicien et musicien Tom Frost, a la patience d'un ange. Dès les premiers essais, il est ébahi par Vladimir. C'est un autre pianiste que celui qu'il a entendu jusqu'à présent. Il y avait là un moelleux, dit-il, une chaleur, une qualité de recueillement qui auparavant ne s'était jamais sentie. Cette sorte de fièvre, cette dureté percussive avait disparu en revanche. Et bien qu'il y eût toujours intact en lui ce côté démoniaque, il y avait de façon sensible une plus grande variété de toucher. D'une manière générale, il était moins nerveux. Nous avons fait des essais avec des micros et avons obtenu un son qui, sans être trop immédiat ou brillant, avait de la chaleur, de la rondeur. Pour séduire sa cible, le marché du jeune public, CBS invente le concept de concert en un disque. Vladimir ne se fait pas prier et propose un peu de tout. Chopin, Rachmaninov, Schumann, Liszt. Vanda ne quitte pas Vladimir d'une semelle et s'occupe activement de la commercialisation du disque, de la couverture au cahier de notes, complétée de photos personnelles qu'elle choisit. Thank you. Le 5 avril 62, la limousine arrive au studio. Bill Upfer, l'accordeur chéri de Vladimir et star de chez Steinway, est là. Chapin, Frost, Wanda. Ils sont tous là, chacun dans leurs petits chaussons. En vrai, la seule personne détendue ce jour-là, eh bien, c'est Vladimir lui-même. Il enregistre tout son programme en 4 après-midi. Lorsqu'il y a des reprises, il refait tout le mouvement, archi-professionnel. Moins facile, une autre exigence de Vladimir. Il veut écouter le résultat chez lui, sur sa simple chaîne stéréo. Il veut entendre comme n'importe quel auditeur. Pas pratique pour l'équipe, qui ne peut choisir dans les prises à loisir et surtout pas immédiatement. Ce contretemps les oblige à revenir le soir, faire écouter, changer, revenir, re-revenir, re-re-réécouter, encore et encore, changer le montage, encore, du Vladimir pur sucre. Se met au diapason parce que tout le monde a compris que l'obsession de Vladimir est d'obtenir une véritable spontanéité. 14 mai 62, le disque est fini et le nouvel Horowitz est né. Le disque a un succès phénoménal et Vladimir reçoit un Grammy pour la meilleure interprétation classique. Ce moment de grâce où enfin Vladimir est réconcilié avec son piano ouvre une nouvelle ère. Le deuxième disque a pour titre « The Sound of Horowitz ». Chapin espère si fort que Vladimir va reprendre les concerts qu'il lui propose de l'accompagner, de devenir son secrétaire en quelque sorte, si cela peut le décider. Vladimir lui avoue « Avant de mourir, c'est une chose que je ferai. Je souhaite rejouer devant un public pour ma propre satisfaction, pour montrer que j'en suis capable. » Mais il ajoute « Chacun semble ne penser qu'à son plaisir et pas au mien. » Ne voit-il pas que je suis un pianiste fatigué ? Pour le troisième disque, il se lance dans des œuvres jamais enregistrées. Beethoven, sonate pathétique et étude révolutionnaire. Chopin et de Debussy, trois préludes du livre 2. Second Grammy. Mais penchons-nous maintenant sur l'automne 64. Vladimir se lance à cœur perdu dans une passion ancienne qu'il n'a jamais pu approfondir comme il le souhaitait. Il n'est plus que dans Scarlatti. CBS doit avaler de travers, c'est invendable. Mais ont-ils les moyens de refuser quoi que ce soit à Vladimir Horowitz? Non. Alors ? Horowitz est un miniaturiste dans l'âme. Ses courtes pièces sont faites à sa main et elles sont un challenge pour déployer sa palette sonore puisqu'elles sont écrites pour le clavecin. Vladimir, je ne voulais pas imiter cette période. Ce que je voulais, c'était jouer comme on le fait aujourd'hui sur un grand piano et peut-être que Scarlatti aurait été très content du résultat. Ainsi, comme il l'a toujours dit, adapter des œuvres à nos jours est légitime, quelle que soit l'œuvre, quelle que soit l'époque. Des 555 sonates, il veut en sélectionner 12. Et pour ce faire, il travaille avec l'expert absolu, le célèbre Ralph Kirkpatrick, l'auteur de l'édition publiée en 1953.
J'ai rencontré Kirkpatrick, on est devenus amis, et il a fait sa propre édition. Il a fait une énorme recherche. C'est un excellent musicologue. Il a vraiment fait du bon travail. Quand vous jouez au piano des choses écrites pour le clavecin, ça devient du clavecin pianistique ou du piano claveciné. Mais c'est encore du piano, parce que le piano ne peut pas faire plus. Pourquoi devriez-vous réduire vos possibilités? Alors parfois j'ai fait un peu plus, j'essaie toujours de rester dans le cadre de cette époque, vous voyez. Mais je joue du piano, pas du clavecin. Alors je ne veux pas imiter le clavecin, mais je veux dire aux gens comment ça sonne au piano.
Ralph Kirkpatrick passe à Vladimir les originaux des partitions sur microfilm et celui-ci corrige quelques fautes de texte. Kirkpatrick, Horowitz, avait un grand souci d'éviter le comportement d'un virtuose. Il entendait être un musicien. Sachant que j'étais une autorité sur le chapitre de Scarlatti, il voulait que je confirme que ce qu'il était en train de faire était acceptable. Et Kirkpatrick l'encourage. Horowitz avait un merveilleux sens pour l'équilibre, le poids des notes de chaque accord et pour placer les silences entre les notes. Et il avait une parfaite maîtrise de tous les degrés du détaché. Sa façon de mettre la pédale était impeccable et son jeu était d'une clarté absolue. Rien ne s'y perdait et il ne savonnait aucun détail. Mais je le trouvais un peu timide face à l'usage d'une plus large palette instrumentale, encore qu'il y aspirait tout à fait au fond. Je ne cessais de lui dire « Mais allez-y, allez-y, n'ayez pas peur de jouer avec plus de liberté !» Horowitz avait tout simplement une sensibilité à la variété du toucher qui éclipsait absolument tout ce que j'avais eu l'occasion d'entendre sur un piano. Vladimir, en fait, s'amuse comme un fou. La preuve, il a souhaité une pochette à la Greta Garbo. C'est une photo de lui, penché sur son piano, comme une star, fumant, avec un très long fume-cigarette. Il enregistre 20 sonates, finalement, et tout se passe comme dans un rêve. En revanche, le montage est un cauchemar. Un soir, il écoute. « Ce n'est pas mal, mais j'ai fait une coda meilleure dans une autre prise. » Le lendemain, l'équipe cherche la coda. La monte et refait écouter à Vladimir, qui cette fois a une autre idée. « Je pense que j'ai joué cette partie d'une façon plus excitante dans une autre prise. » Revenir sur scène, oui, il y pense de plus en plus souvent, mais ne dit rien. Vladimir, tous mes amis, tous mes confrères venaient ici comme si j'étais mort avec des condoléances. Les gens venaient s'asseoir en me disant « Vous devez jouer, il faut jouer ». Ils étaient très gentils, pleins d'attention. Ils me disaient « Volodia, il faut commencer dans de petites villes après tant d'années ». Et j'écoutais. Je disais « Merci, c'est très gentil de votre part ». Finalement, j'ai dit à ma femme « Je crois que je peux commencer à Carnegie Hall, pas à Monte Carlo, non, à Carnegie Hall. Ce serait la chose la plus simple. Je n'aurai pas à faire un voyage, je sortirai de mon lit et nous verrons bien ce qui arrive. » Novembre 64, le jeu de chat et de souris commence. Le vrai point de départ, c'est quand Vladimir téléphone à Julius Blum, le directeur de Carnegie Hall. Ils ne s'étaient pas revus depuis la fin des années 40. Blum, malin, laisse Vladimir se plaindre que tout le monde le tanne pour qu'il redonne des concerts. Et surtout n'en rajoute pas, au contraire. Mais non, ne jouez pas si vous devez le faire contre votre volonté. Et Vladimir de continuer sur la vie en hôtel impossible. Il ne veut pas reprendre les tournées, il ne veut pas d'impresario non plus. Blum, toujours compréhensif, ne pipe mot. Mais une relation de confiance s'engage. Le trio Vanda, Volodia, Julius Blum se retrouve dans une pizzeria près de Carnegie Hall. Blum sait pertinemment que Vladimir a peur d'être trahi par sa mémoire et qu'il est, comme il le dit lui-même, un pianiste fatigué. Mais il sait aussi que le public l'attend. Blum certifie à Vladimir qu'il décidera de tout s'il donne un concert à Carnegie jusqu'au prix des places, la date, la pub. Il le rassure, ce n'est pas parce qu'il aura donné un concert qu'il devra poursuivre l'expérience. 2 mois ainsi, et Vladimir demande au directeur de la salle, sans rien préciser, s'il peut retâter du plateau, juste pour voir comment il s'y sent. Premier jour. Tension extrême. Ne serait-ce que pour décider de la place du piano sur scène, ça prend 1 heure. Puis on plante une vis dans le plancher, la vis H, qui y est encore, et que les pianistes repèrent comme un porte-bonheur, la vis de Horowitz. Vladimir demande à Columbia d'enregistrer juste pour voir, puis ne prend aucune décision. Chepin lui rappelle qu'il lui a proposé d'être son assistant. Réponse. Je suis allé chez un tailleur pour me faire fabriquer une veste de frac. Point. Pas un mot de plus. Même à Vanda, il ne promet rien. Moi, je ne lui disais jamais rien. Pas même cette fois. J'avais le sentiment que plus je le presserais de le faire, moins il jouerait. Il faut qu'un artiste ait la volonté de jouer, qu'il sente qu'il doit jouer. Parler ne sert à rien. Alors cette fois, je n'ai rien dit non plus. Un pas de plus. En mars, Blum, et rappelez-vous qu'il dirige Carnegie Hall, se propose carrément comme impresario de substitution. Et puis un soir, alors qu'il dîne avec Vanda et Volodia, d'un coup, au café, Julius Blum réalise qu'il a aplani toutes les difficultés et que Vladimir n'a plus aucune exigence qui ne soit satisfaite. Quand il s'en exprime, Volodia se retourne vers Vanda. « Tu es témoin. Je n'ai pas dit formellement que je jouerais. J'ai dit que j'envisagerais de jouer si toutes mes objections étaient levées. » Mais enfin, quelques jours après, Volodia demande à Julius de réserver une date. Le 9 mai 1965, à 15h30. À partir de là, Blum s'attaque avec Vanda au contrat, les prix des billets et la publicité. Une clause précise que si Volodia ne joue pas, il n'y aura aucune sanction. Le secret absolu est gardé jusqu'à ce que le New York Herald le cite en parlant de l'année des retours. Kala, Seyfets, Piatigorsky, une comparaison qui ne plaît pas à Vladimir. Du coup, il invite le New York Times à venir voir ce qu'il fait à Carnegie Hall. La manchette du journal fait fureur. Me retrouver en première page du journal m'a donné une grande impulsion. Je me suis senti une responsabilité. 19 mars, au Steinway Hall. Vladimir donne à nouveau une conférence de presse. Il se présente comme un homme neuf. Quand j'entends aujourd'hui mes disques des sonates de Prokofiev, de Samuel Barber ou Kabalevski, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de jouer. Maintenant, je ne sais plus par où les aborder. Mais catastrophe. Fin mars, Julius Blum fait une crise cardiaque. Il est hospitalisé. Est-ce que tout va être remis en question? Non. Vladimir lui téléphone pour lui assurer que sa décision est définitive. Les billets sont mis en vente à 10h le 26 avril 1965. Seulement voilà, alors que Vladimir mourait de peur de faire un flop, alors que Vanda a exigé le tarif le plus haut, une queue a commencé à se former dès le 25 avril au matin. Pour obtenir une place, ses admirateurs ont prévu d'attendre une journée entière et de dormir là alors qu'il pleut des cordes. Ils s'installent avec des pliants, des sacs de couchage, ils ont un numéro de queue. La file envahit la rue au point qu'une vingtaine de policiers doivent venir faire la circulation. Un passant demande si les Beatles doivent donner un concert. Vladimir, lui, n'en sait rien, caché au fond de son salon. Il demande à Vanda d'aller jeter un œil. Quand elle découvre les pauvres fans sous la pluie, elle rentre dans un café et fait livrer une tournée générale et renouvelable de cafés et de donuts dans la nuit. Vladimir et Vanda reçoivent un peu plus tard un télégramme. « Cher maître, chère madame, une centaine d'entre nous à avoir passé la nuit dans la queue, tenons à vous remercier pour ce café réconfortant et à vous exprimer la joie et l'impatience que nous éprouvons à l'unanimité. » Quand le bureau de location ouvre ses portes, 1500 personnes font la queue pour obtenir des billets. Le pire, c'est que tous ces admirateurs, plus que passionnés et patients, n'auront pas tous la possibilité d'acheter une place. Un certain nombre a évidemment été réservé aux amis, à RCA, etc., etc. Scandale. Mais Vladimir va-t-il jouer? On est à 15 jours du concert. Tout le monde est à cran, sauf évidemment Vladimir. Pourtant, il reste un peu inquiet de ses possibles fausses notes à cause de sa nervosité évidente. Tout le monde me disait que ça n'aurait pas d'importance et que je pourrais jouer avec un doigt pour que l'enthousiasme se déchaîne. Julius Blum est toujours à l'hôpital. Schuller Chapin tient sa promesse d'être l'assistant de Vladimir. Ainsi, il se charge de vérifier la climatisation de la salle et de la scène. Le cher Volodia veut-il l'air conditionné sur la scène? La nuit du 8 mai 65, Vladimir. D'habitude, je dors bien, mais samedi soir, j'ai peu dormi, peut-être 5 heures. Ce n'était pas de panique ou de nervosité, c'était l'anticipation. Oui, l'anticipation de quelque chose de très important dans ma vie. Je ne suis pas instable. J'ai un tempérament nerveux, mais pas instable. Là, je n'avais rien à gagner, mais seulement à perdre. J'étais déjà une légende. Ce soir-là, en se brossant les cheveux, Vladimir réussit à se planter un crin dans le pouce. Un médecin est appelé pour lui faire un pansement. Rassurez-vous, ce n'était pas bien grave. Au matin du concert, le silence est total dans la maison. Vanda. Tout le monde autour de lui souffrait, en silence, en essayant d'avoir une apparence aussi calme que possible, et en ne disant rien sinon quelques trivialités anodines. 10h30. Il s'est réveillé et a petit déjeuné, poulet, pain beurré au miel et café décaféiné. Il a longuement réfléchi à son habit et il est l'heure d'endosser ce qui sera désormais son costume de scène. Pantalon rayé, gilet gris, veste de frac, chemise blanche et pochette blanche. Je pense à ces petits détails, comme des sockets qui ne me serrent pas. Vérifier que les nœuds de mes souliers sont bien faits, que mon pantalon est bien fermé. Alors arrive le moment où j'endosse mon habit. Le moment où j'ai mis mon uniforme et où je suis comme un cheval de course avant le départ. Je me mets à transpirer. Je sens déjà une certaine électricité. J'aime être là 10 minutes, un quart d'heure à l'avance pour me réchauffer les doigts. Je suis un général et mes soldats sont les notes. Je dois leur commander. 14h. La limousine arrive devant la maison de Vladimir. C'est une belle journée, Vladimir avait appelé la météo pour vérifier. Tchépine l'attend à Carnegie Hall. Aussi loin que porte le regard, les trottoirs sont bondés de monde et les gens se répandent sur l'avenue. Le trafic est engorgé, tout est immobile. Des fans sont là sans billets, juste pour voir leur idole passer. Des revendeurs passent de 3$ à 30$ le billet. 15h, pas de Horowitz. Il y a 37 blocs à parcourir, mais il y a un embouteillage monstre qui s'amplifie aux abords du théâtre. La rue est submergée de caméras, de micros, de foules sur la 56e rue à l'entrée des artistes. La loge est prête, le canapé, le piano de travail, de l'eau. 15h10, elle est vide. Tchépine panique. La salle, elle, est pleine. On aperçoit Stravinsky, Balanchine, Gilgould, Nourieff, Bernstein, Stokowski. Tchépine, mes genoux ont commencé à flageoler à l'idée qu'Horowitz pourrait ne pas venir et que j'aurais à entrer en scène pour le leur annoncer. 15h15, toujours pas là. 15h22, la limousine apparaît au bout de la rue. Il est là. La foule se presse, il descend calmement et sourit aux applaudissements et aux acclamations. Tchépine et Vanda embarquent Vladimir vers la loge pour qu'il se réchauffe les doigts sur le piano de travail. « Mes mains sont froides, » dit-il. Il prend les mains de Tchépine, elles sont glacées. Se tourne vers l'huissier. « Écoutez, vous êtes un jeune homme en bonne santé, donnez-moi vos mains pour réchauffer mes doigts. » Mais les mains du jeune homme sont encore plus froides que les siennes. « Il était plus nerveux que moi. » Tout le monde était si nerveux. Et maintenant le concert, comme si nous y étions. 15h35, la salle commence à bruire. Vladimir demande encore quelques minutes pour les retardataires et s'étonne d'apprendre que le public plus que ponctuel est là, qu'il n'y a plus une seule place de libre. Ils descendent lentement vers les coulisses. 15h38. On éteint les lumières dans la salle, on allume la scène. Vladimir est près du rideau, mais il ne bouge pas. Tchépine le prend doucement par les épaules, le fait se tourner vers la scène et le pousse dans le dos. Vladimir entre très lentement, le dos courbé. Immense ovation.
Revenir sur scène après 61 ans, ce n'est pas si facile que ça. Mais une fois qu'il avait mis les pieds sur scène, plus rien d'autre n'existait. Il n'y avait plus que le piano.
Le regard myope. Vladimir fait un geste. Arrêtez, je n'ai pas encore joué. Il s'assied et contrairement à ses vieilles habitudes, il ne tripote pas une seconde le siège. Il commence direct. Thank you. Direct mais trop vite peut-être, son bac buzzonné. Il accroche sur une octave dès la première phrase. Tout y est, la palette, l'énergie. Mais il y a beaucoup de fausses notes. Vladimir, j'étais handicapé et je suis sûr que je pourrais mieux jouer cette toccata en d'autres circonstances. C'était trop remuant affectivement pour moi. Vanda est au premier rang. À la moitié du bac, elle se lève discrètement pour rejoindre Volodya à l'entrée des coulisses comme il l'en avait supplié. Chepin, juste derrière le rideau, l'entend le rejoindre. Il se retourne. C'était Vanda, fixant la salle des yeux, le visage ruisselant de larmes, qui ne cessait de répéter comme en transe « Je ne pensais pas que je reverrais ça un jour. Je ne pensais pas que je reverrais ça un jour. » Explosion d'applaudissements. Vladimir, en sortant de scène, voit Vanda. Il se regarde longuement et c'est très bien. Vladimir y retourne. Il faut tenir le Schumann maintenant. Il lui faut de l'ampleur et du souffle. Harold Sichenberg, le journaliste, ce fut une interprétation héroïque, mais jamais écrasante, ni névrotique ou spasmodique. Tempo rapide pourtant, au point que dans la coda du deuxième mouvement, particulièrement traîtresse, il perd le contrôle, comme il en avait eu la hantise, Schoenberg. Cela a prouvé au moins qu'Horowitz était un mortel.
Thank you.
Entracte, Vladimir s'allonge sur le divan. Toutes ces fausses notes dans le bac Buzzoni, dit-il. Il faudra les garder pour le disque. Ce ne serait pas juste de les enlever. Ce qui m'a touché au cœur, c'est que les gens ont compris la musique. J'ai senti que le message avait atteint le cœur des gens. En revanche, Vladimir décidera qu'il faudra remonter le Schumann avec le son de la répétition. Mais le Bach, non, il sera gardé comme il est.
Oui, parce que c'était un document. Après 12 ans, vous allez à Carnegie Hall et vous jouez. Vous pouvez être un peu nerveux. Et c'est normal que quelque chose arrive. Parce qu'après ça, plus rien de fâcheux n'arrive, vous voyez. Mais dans la fantaisie de Schumann, vous vous souvenez des accords de la deuxième moitié. C'est très difficile. C'est comme le billard, vous voyez. Vous devez frapper les notes. Là, il y a eu quelque chose dans mon concert. J'étais en sueur, c'était l'été, j'ai joué en mai. Il faisait vraiment chaud et la sueur est tombée dans mes yeux et m'a fait fermer l'œil droit. C'était salé. J'ai fermé l'œil. D'habitude, on les ferme quand on en a besoin. Et là, j'ai fait deux ou trois notes complètement fausses. Et ça, je l'ai changé.
Seconde partie du concert, 9e sonate de Scriabine, puis Chopin, la première ballade. L'hystérie du public enfle. commence les bis. Moskowski, l'étude en la bémol majeur, qui à défaut d'une de ses transcriptions, permet de retrouver la vélocité si célèbre de ses doigts. Il fallait que je leur montre quelque chose du vieil Horowitz. Rugissement du public. Mais le public ne veut pas partir. On allume la salle, on éteint la scène. La cohue est totale aux abords de la loge. 17h45, Vladimir et Vanda veulent quitter le théâtre. Mais comment faire? La limousine vient se ranger près de la sortie. La foule tout autour est compacte. Vanda s'en souvient.
When we came out, there was still
quand on est sorti du concert, il y avait encore la queue. Et un jeune homme a dit, « Monsieur Horowitz, j'ai fait la queue pendant 12 heures. » Alors moi, je me suis retournée et je lui ai dit, « Et moi, j'ai fait la queue pendant 12 ans. »
Avant de nous quitter, je tiens à préciser que je n'aurais pu écrire cette émission sans le précieux récit de Glenn Pleskin. C'était « Sous les doigts d'Horowitz », une émission d'Emmanuel Franc. Françoise Montaigne m'a aidé à la préparer et Christine Amadou l'a réalisée. Merci à Laurent Lederer pour la voix d'Horowitz et à Bernard Loupias pour les traductions. À la technique aujourd'hui, Stéphane Touvenin. À samedi prochain pour le dernier épisode de notre série.
À réécouter sur francemusique.fr.